it comes. First down! Here it comes. First down, says Red Cashin.
On est à la zone payante en compagnie de John Colagagné, de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. Messieurs, c'est le temps pour notre premier essai, si vous le voulez bien. Débutons avec toi, Jean, tiens, ou avec Stéphane plutôt. Les équipes qui sont aucune victoire, deux défaites, là, c'est le moment de l'année, là où tout le monde là, regarde les statistiques. Là. Bon, combien d'équipes depuis le début de la saison 0-2, puis de ces équipes-là, qui a la chance de faire des séries malgré un départ plus difficile? Plusieurs équipes sont 0-2, puis on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça qu'on voit remporter une place dans les séries. On dirait que les seules que je vois, c'est les Vikings. Moi, je sais pas de ton bord, c'est qui?
Ben, écoute,
je
juste pour faire le décompte.
Plaisir.
Non, je sais là, que ce serait pas ton genre, là, mais écoute, c'est tout à fait logique parce que ce que tu dis, les Vikings, là, quand on regarde ça comme il faut, sont 0-2 puis sont à deux jeux d'être 2-0. Le botté en prolongation contre les Bengals, et le botté raté la semaine passée contre les Cards, un botté ridicule de 37 verges. Donc, t'étais pas loin d'être à 2-0 puis très confortable là, ce matin, mais non, t'es 0-2. Donc oui, c'est un bon choix pour rebondir, sait-on jamais. Le décompte des équipes à 0-2 en ce moment, les Jets, pas grand-chance. Les Jaguars, pas grand-chance. Les Colts, avec la blessure à Wentz, faudra voir. Ils jouent dans une division faible, mais j'ai regardé, ils ont un calendrier très difficile. Je pourrais te donner un peu plus de détails après. Après, les Vikings, les Giants, les Lions, les Falcons. Il n'y a pas grand monde là-dedans qui est surdoué, disons-le comme ça. Puis pour donner une idée, parce qu'il y a beaucoup de fans de ces équipes-là qui se demandent, coudonc, est-ce qu'on a quand même des chances à 0-2? Historiquement, là, depuis 1990, il y a 30 équipes sur 258 qui ont débuté la saison avec une fiche de 0-2 qui ont fait les séries. Ça te donne un pourcentage de 11,6. 11,6%.
Ah, pas plus que ça? 30 sur
250? Non, c'est vraiment difficile. C'est une pente qui est dure à remonter. Ça a l'air facile comme ça, 0-2. Ouais, il y a 17 matchs, on a encore du temps. Pas si facile que ça. Là-dessus, sur les 30 qui ont fait les séries, il y en a seulement 15 qui ont finalement remporté leur division, donc 5,8%. Puis pour ceux qui se posent la question, dans les deux dernières années, il n'y en a aucune équipe qui a commencé à 0-2 puis qui a fait les séries. Donc, comme je le disais, une bonne pente à remonter. Tu sais, du côté des Vikings, puisqu'on en parlait à l'instant, il y a toutes les équipes dans la division qui ont déjà au moins une défaite. Donc, c'est pas comme si la division était partie en feu là, puis qu'il y avait personne d'arrêtable. Comme je le disais, sont à deux jeux d'être 2-0. Mais les Vikings, là, attention, ils pourraient vite tomber à 0-4. Ça, ça fait mal. Là. Les deux prochains matchs, ils jouent contre Seattle et Cleveland. Hey, c'est loin d'être des parties données. J'aurais tendance à favoriser l'adversaire vite comme ça dans ces deux parties-là. S'il se retrouve à 0-4, là, écoute, ça va commencer à paniquer là-bas. On va vouloir la tête de Mike Zimmer. Ça sera plus drôle. Ça va devenir un mélodrame de semaine en semaine. Donc, faut absolument qu'ils gagnent l'un de leurs deux prochains matchs à la maison, au moins. Les Colts, écoute, tu joues dans une division qui a les Jaguars et les Texans, ça te fait presque, même s'il n'y a pas de victoire donnée dans la NFL, ça te fait quand même un espoir de 4 victoires, disons-le comme ça. Là. Mais tu regardes dans leur calendrier, bon, ils affrontent deux fois les Titans, là, dont une fois cette semaine, les Niners, les Bills, les Buccaneers, les Patriots, les Cardinals, les Raiders. C'est un gros calendrier qui attend les Colts. Faut que Wentz non seulement revienne au plus vite, mais qui montre qu'il est capable de rester en santé, puis qui montre qu'il est capable aussi de bien performer. Jusqu'à maintenant, il jouait pas mal, Carson Wentz, mais ça continue d'être la même histoire. Il se fait frapper à répétition. Il trouve pas le moyen d'éviter les contacts. T'sais, il se protège mal lui-même, en plus de sa ligne, justement, là, qui joue pas très bien. Donc, c'est pas évident. Moi, cette année, personnellement, si j'avais à statuer aujourd'hui, j'en vois pas d'équipe à 0-2.
Est-ce que tu sais ce qu'on dit à propos des blessures dans la NFL? On dit qu'il y a un joueur dans la NFL qui se blesse en moyenne à tous les 12 snaps, et ce joueur-là, c'est Carson Wentz.
Oh boy! Ouais, c'est pas un... Il a eu des malchances là-dedans, mais honnêtement, là, il est en train de démontrer malheureusement, puis il fait toujours ben pas exprès, le pauvre Carson Wentz. Mais il est en train de démontrer que son corps est de plus en plus fragile. Quand ça se met à tomber en ruine, c'est dur de recoller.
Oh, on peut en parler longtemps, ça.
Les Giants, les gars, tu sais, c'est pas vrai que la NFC East est pas ouverte pour tout le monde. C'est pas, c'est probable un des moins bons clubs. Ça, j'ai pas de problème avec ça. mais le fait qu'ils évoluent dans cette division-là, bon, moi, je pense, leur donne une meilleure chance peut-être que bien d'autres équipes. Tu sais, présentement, tout le monde est 1-1, eux sont juste 0-2, sont un match derrière. Donc, au niveau classement, je pense qu'il n'y a pas de panique. Mais est-ce que ça implique, si les Giants veulent faire les séries, que leur défensive doit se lever parce qu'elle joue pas bien depuis le début de la saison? Et Daniel Jones, faut qu'il joue comme il a joué contre Washington parce que les Giants méritaient quand même peut-être un meilleur sort si ça n'avait été un joueur défensif avec une tête de banane.
OK, merci les gars. Deuxième essai, si vous le voulez bien, on va parler avec Jean des joueurs qui ont fait des statements cette semaine et quels joueurs devraient faire des statements cette semaine parce qu'il y a certains joueurs qui ont des débuts de saison un peu plus lents. Et on a parlé de Rodgers, je pense qu'il s'est bien remis cette semaine. Mais quel autre joueur, d'après toi, Jean, a fait des statements cette semaine et qui devrait en faire la semaine qui s'en vient?
Ben, je veux dire, Derrick Henry, les gars, quelle performance monstrueuse face aux Seahawks. Ceux qui l'avaient dans leur pool je pense qu'ils ont remercié le bonhomme en haut parce que c'est une performance incroyable d'Henry pour aller battre les Seahawks chez eux à domicile. On voit quand ça bloque bien devant lui un petit peu. Puis ce que j'ai aimé des Titans dans ce match-là, c'est qu'ils ont jamais abandonné sur Henry, ce qui n'avait pas été le cas nécessairement dans le premier match ou ce qui n'avait pas nécessairement eu beaucoup de portée. Ils ont continué à feed the beast, comme on dit. Donc, tu nourris la bête, tu lui donnes des portées, puis il les a récompensés. Écoute, il les a ramenés tout seul, je pense, dans ce match-là. On voit que c'est un des porteurs de ballon qui a encore beaucoup, beaucoup d'impact dans la game d'aujourd'hui. C'est un monstre, tout simplement. J'ai beaucoup aimé Derek Carr également face aux Steelers. Derek Carr qui a... je pense, fait taire ses critiques, mais c'est pas encore assez pour Derek Carr. Parce que il y a pas beaucoup de gens qui le placent ou qui pensent que Derek Carr, c'est un carrière élite. Donc, il devra faire ça semaine après semaine. C'est ça la question. Est-ce qu'il va être capable d'être constant puis d'avoir ce genre de stats-là à toutes les semaines? C'est ça qu'il faut se demander. Mais je pense que c'est quand même un match important pour lui là, qui a joué à Pittsburgh. Cette semaine, moi, je regardais un petit peu là, qui doit rebondir, qui doit avoir des grosses performances. Moi, je pense à Najee Harris du côté des Steelers. Les gars, présentement, les Steelers de Pittsburgh sont la pire attaque au sol de la NFL.
On oublie d'en parler.
Comme l'an passé.
57 verges par course.
Puis on oublie d'en parler tantôt, mais
par match,
Roethlisberger, c'est pas fait qu'il est là pour les prochaines semaines.
Non, ça c'est un point d'interrogation, mais t'as quand même repêché Harris pour qu'il donne qu'il solutionne pas tous les problèmes parce que je pense que les Steelers savaient que leur ligne en attaque est questionnable, on le voit clairement, mais il fait pas assez présentement Najee Harris, puis c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une bonne différence entre la NCAA puis la NFL. Présentement Harris, s'il y a pas nécessairement un gros trou devant lui, il est pas capable d'aller chercher des verges positives ou briser un ou deux plaqués, puis tu sais de transformer un gain qui était ordinaire de une ou deux verges à 7-8 verges. Puis je pense que quand tu es un choix de première ronde comme porteur de ballon, c'est ça que tu dois amener, puis moi je vois absolument rien de ça présentement. Par contre, il a montré contre les Raiders qu'il est capable d'attraper des ballons dans le champ arrière puis de le transformer en toucher. C'est peut-être une option que les Steelers vont peut-être explorer un peu plus. C'est un gars qui est polyvalent, donc il va peut-être utiliser cette polyvalence-là à bon escient. Mais il doit faire mieux. Ça, c'est
au pire. Un autre joueur qui aurait à faire un statement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit pas Aaron Donald depuis le début de la saison.
Ah, non, Aaron Donald a fait des beaux jeux contre les Colts la semaine passée. Il a vraiment, à tout bout de champ, fait exploser la pochette, faire voler un gars sur Carson Wentz, ça crée une passe incomplète. Non. Moi, si tu veux un joueur défensif, Jean-Nic, personnellement, il y en a un, moi, que je vois pas cette année à date, puis qui faisait beaucoup de bruit l'an passé à sa saison recrue, c'est Chase Young. L'ailier défensif de Washington. Il n'y a pas de sac, il y a 4 plaqués, mais les sacs, ça, c'est une chose. T'sais. Ça se peut que des fois, tu sois toujours dans la face du corps arrière, mais tu n'arrives juste pas à l'atteindre. C'est pas grave, ça. Tu déranges, tu es capable de causer des jeux qui s'en vont tout croche à l'attaque de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'on voit de Chase Young. C'est très tranquille. Puis Washington, tu vois, on parlait de cette équipe-là comme d'une potentielle défensive du top 3 dans la NFL. L'an passé, là, il y avait eu vraiment une grosse ascension du côté défensif. On le voit pas cette année. Tu sais, c'est une équipe qui joue pas mal défensivement, mais c'est pas une défensive dominante. Puis la pièce maîtresse pour moi de cette unité-là, c'est Chase Young. Jusqu'à maintenant, plutôt silencieux. On parle de gars qui ont besoin de faire des statements. Pour moi, c'est un bon exemple parce qu'on voit souvent les corps arrière, les vedettes offensives, mais un joueur d'impact comme Chase Young peut l'être, c'est très, très important aussi là pour Washington.
Puis Ezekiel Elliott?
Moi, ça va de la façon que je pense que les Cowboys veulent vraiment essayer de conserver ses énergies toute la saison. C'est pour ça qu'avec Pollard, l'autre porteur de ballon, je pense que c'est à date, c'est 50-50. Puis je déteste pas cette façon de fonctionner là. Il n'y a pas eu un mauvais match la semaine passée. Je pense que Pollard a été meilleur que lui. Mais il y a des matchs, peut-être que ça va être le contraire. Mais je déteste pas présentement la formule des Cowboys. On va le reposer, puis il va être frais à la fin de l'année. Ça, je pense que c'est pas mauvais. Moi, un joueur que j'aimerais voir un gros match de lui cette semaine, c'est Jimmy Garoppolo. C'est pas qu'il a mal fait depuis le début de la saison, il fait bien, son équipe est 2-0, mais lui aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur lui. Puis cette semaine, c'est un match à grande écoute. C'est dimanche soir, les Packers s'en viennent voir les Niners à la maison. Il se doit d'avoir un bon match.
Puis l'attaque va reposer sur lui, oublie pas ça, parce qu'on parlait
des bons points tantôt.
Là, tu peux pas te rabattre sur Raheem Mostert, tu peux pas te rabattre sur Elijah Mitchell, sur Trey Sermon, sur Jamichael Hasty, sur Jeff Wilson. T'es rendu loin dans le depth chart. Donc, Garoppolo, c'est vrai, il a très bien joué la semaine 1, honnêtement. Ça a été un fort match. Plus tranquille la semaine passée contre Philadelphie.
Exact. Et okay. Dernier point, Joe Burrow. Joe Burrow n'a pas un bon début de saison avec les Bengals. On s'attendait à un peu mieux. Oui, il revient d'une blessure. Mais là, écoute, il s'en va jouer à Blitzburg contre les Steelers. Il est mieux d'être prêt. Ça serait bien qu'il rebondisse un peu pour montrer qu'il est sur la bonne voie. Parce que présentement, c'est difficile.
Troisième essai, les gars. Le sujet de l'heure en ce moment dans la NFL, les pénalités pour taunting, pour avoir provoqué l'adversaire. Tout le monde a son opinion. Les entraîneurs sont interrogés là-dessus. D'abord, juste pour mettre les gens en contexte, là, on a resserré les règles ou la pénalité pour taunting dans la NFL. C'est-à-dire quand un joueur veut provoquer l'adversaire après un beau jeu, il y a une pénalité de sportsman, comment on dit en français, d'inconduite ou d'esprit sportif. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que ça fait partie du jeu de célébrer le jeu, un beau jeu d'en face de son adversaire ou c'est une pénalité qu'on devrait voir disparaître dans la NFL?
Ben, écoute, si tu me le demandes, moi, je pense que surtout la NFL, c'est du sport, oui, mais c'est aussi de l'entertainment. Puis là, je pense que quand tu imposes des punitions pour ça, tu t'en vas un peu contre ton entertainment, là, ta business de ça. Au-delà de ça, je peux comprendre un peu pourquoi tu essaies de faire ça, mais pour moi, c'était pas un problème. C'est ça que je vois différemment, je pense, des décideurs de la NFL. Eux, ils voyaient un problème avec ça. Moi, j'en voyais pas. Je pense que c'était encore sous contrôle. C'est sûr aussi que quand t'es la NFL, t'as un rôle à jouer pour les plus jeunes. Ça reste des modèles, ces gars-là. Fait que si ils sont un petit peu trop agressifs, ben ça se peut que ça se fasse copier.
Parce qu'il faut mettre la différence. La pénalité, c'est pas si tu fais un beau jeu puis tu célèbres avec tes amis, tu t'en vas devant la caméra dans le fond de la zone début. Ou c'est pas ça, là. C'est vraiment si tu provoques l'adversaire en le regardant, en allant y parler, en étant à quelques centimètres de son visage ou en faisant tourner le ballon dans sa face, en lui faisant signe. Tu sais, c'est un peu essayer de prévenir ce que l'entraîneur Rivera disait de l'équipe de football de Washington. Il disait, ce qu'on veut, c'est éviter des batailles.
Ben, un, c'est pas comme s'il y en avait des milliers de batailles dans la NFL. Tu sais, ça, c'est la première des choses. C'est que pour moi, cet argument-là n'est pas vraiment valable.
Il y en a plus au baseball, c'est tout dire.
Ouais, exact. Moi, c'est, où ce que j'ai un, où ce que le bas blesse, comme on dit, c'est, je trouve que ça va contre des fois la mentalité que tu veux instaurer en défensive. Tu veux avoir des gars super agressifs, tu veux avoir le mâle alpha, puis ça vient un peu piger là-dedans. C'est surtout des demi-défensifs face aux receveurs. Depuis que le monde est monde, ces gars-là sont un petit peu arrogants. C'est ça que tu veux aussi de ces gars-là. Tu veux qu'ils soient un peu comme ça pour... Je pense que ça va les aider dans leur travail.
Mais on t'empêche pas de célébrer. On dit, je comprends ce que tu dis.
De là à enlever un ballon qui spinne, un ballon qui spinne proche d'un gars, waouh! Tu sais, c'est pas
l'intention.
Il y a une question de constance aussi, moi, qui me dérange jusqu'à maintenant. C'est que, pour reprendre l'exemple que Jean vient de donner, tu spinnes le ballon à quelques pas des pieds d'un adversaire, là, tout à coup, ça devient une faute grave, mais Lamar Jackson fait un toucher, il fait une pirouette, c'est correct. Je comprends qu'il a pas fait une pirouette d'en face d'un adversaire, mais est-ce que l'adversaire peut juger, lui, qui aurait été provoqué? Tu sais, il y a une question très subjective là, là-dedans que les arbitres doivent déterminer. Puis à tout bout de champ, c'est sûr que tu vas prendre une décision que tout le monde va dire, ben voyons, là, il a provoqué personne avec ça, puis l'autre arbitre penserait différemment. Quand ça implique vraiment là, des questions de jugement comme ça, ça peut devenir problématique. Mais il y a une chose que je me dis, là en ce moment, c'est la grosse affaire, parce qu'il y a une emphase là-dessus. Rappelez-vous, là, pas plus loin qu'en 2016, il y avait justement le même point d'emphase de la Ligue sur les pénalités là, pour avoir provoqué. Ça avait résulté en 12 mouchoirs lors des deux premières semaines. On est à peu près à ça, là, si je me trompe pas actuellement. Il y avait aussi un scandale à ce moment-là, tout le monde paniquait. Puis finalement, dans les 15 semaines suivantes, dans un article là, que j'ai d'ESPN, il y avait eu 26 pénalités là pour taunting. Donc, il y avait eu une grosse emphase dans les deux premières semaines. Comme ça, on disait aux joueurs, attention, là, on va être sévère, on n'en laissera pas passer. Puis après ça, on se calme un petit peu. Donc, j'ai l'impression que la machine va se roder puis que tout va s'équilibrer, toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais en ce moment, c'est sûr que ça fait drôle de voir autant de pénalités là, dans ce
situation. Tu vois, t'as raison. Là, j'ai regardé pendant que tu parlais, puis c'est 10 pénalités totales l'an passé. Et là, c'est 10 en deux semaines.
Ouais, mais... c'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup, mais comme je le dis, je serais pas surpris là, qu'après avoir créé un certain remous avec ça, la Ligue s'ajuste, les officiels s'ajustent, les joueurs s'ajustent aussi, parce que ce sont eux qui sont impliqués d'abord et avant tout. Puis que en bout de ligne, là, à la fin de la saison, on va avoir trouvé un certain équilibre, puis je suis à peu près convaincu que plus personne va parler de ça rendu.
Moi, la punition, le gars qui m'a fait un petit peu tilter, parce qu'ils sont pas toutes mauvaises. Il y en a que c'est des vraies punitions, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais celle de DJ Reed en fin de semaine, dans le match des Seahawks face aux Titans, il couvrait AJ Brown des Titans. Il fait un super beau jeu proche de la zone des buts.
Oui.
Il se lève, il a juste crié un peu là.
Proche de sa face.
Non, mais on s'en fout.
Je sais, mais il
célébrait son jeu à lui. Je l'ai même
pas. Pourquoi il va pas célébrer avec ses amis plutôt que d'écœurer le gars qui vient?
Ben, c'est instinctif. Tu viens de faire un jeu. Tu sais, je veux dire, c'est normal de faire ça. Moi, pour moi, cette punition-là n'avait pas lieu d'être. Puis c'est pas un problème pour moi. Il est pas allé dans face à face avec le AJ Brown.
Non, il était par terre, la face dans le gazon. Mais c'est vrai, mais je t'entends, je suis d'accord avec toi que les gars qui font des bons jeux, ils ont envie de tout de suite triompher. Là. La ligne est mince, mais.
La ligne est très mince, c'est très, très fragile. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
OK, ben merci les gars pour cette discussion. On va voir, t'as peut-être raison, Steph, là, qu'après quelques semaines, on n'en parlera plus, mais peut-être aussi parce que les équipes vont s'être ajustées, puis les coachs aujourd'hui ils vont dire à leurs joueurs, OK, les gars, on fait plus ça.
Et, ouais, ils vont leur demander, c'est sûr, de garder leurs mains dans leur poche. Là. T'sais, ça s'en vient. Là. Il va y avoir, autant il y a une emphase de la Ligue, il va y avoir une emphase des coachs dans les meetings d'équipe, les meetings de position, de dire à leurs gars, écoutez, on veut que vous soyez émotifs, on veut que vous soyez crinqués. Mais quand vous faites un bon jeu, allez célébrer ailleurs que devant le nez de l'autre joueur. Là.
Exact. Puis par-dessus.
Ça va, le mot va se passer. Les joueurs vont célébrer de d'autres façons. Les arbitres aussi vont peut-être un petit peu slacker. Là. Tu sais, quand il y a une controverse comme ça, tout le monde s'ajuste. Puis, c'est depuis que la NFL existe, il y en a eu je sais pas combien des controverses d'arbitrage. Je pense qu'il y a un an ou deux, c'était les pénalités pour avoir retenu. On avait mis une emphase incroyable là-dessus. On paniquait au bout du premier mois de la saison, puis finalement, ils ont rangé leur sifflet. Les joueurs de ligne offensive se sont ajustés. Tout le monde a été content à la fin de l'année. C'est des périodes d'ajustement. Là, je pense pas que ça va être un grand scandale, mais au moment où on se parle, oui, il y a une controverse autour de ça, c'est clair et net.
Et oubliez pas aussi qu'on n'entend pas ce qui se dit nécessairement sur le terrain. Tu sais, après un beau jeu, si tu vas écœurer le receveur avec le F-word ou n'importe quoi, peut-être que les arbitres aussi ont décidé qu'il y a du vocabulaire qui passerait plus. Là,
c'est sûr qu'il faut peut-être pas que ça se passe comme dans Slapshot.
Exact. OK. Merci, les gars. On s'arrête. Après la pause, on va jouer à fait ou faux dans notre quatrième essai. Je vais vous demander si ce que je vous dis est un fait ou si c'est faux. Bougez pas.